Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question. RLP.
Bonjour au Périgord. Dans cette nouvelle série des gens moins visibles que nos politiques, mais tout autant acteurs de nos territoires, je reçois aujourd'hui un collectif de citoyens, citoyennes, mécontents, mécontentes, et oui, un de plus, de notre haut Périgord. Ce collectif se nomme Sauvegardons Razac et le bassin de la Caule, et a pour volonté la protection du territoire, et en particulier de nos belles forêts, que l'on nous envie tant. Coupeurs d'arbres et carriéristes, pardon pour le jeu de mots, faut bien penser que ces territoires beaux et pleins de forêts, ça attire plein de touristes. Et ouais, il n'y a pas que le foie gras chez nous. Et c'est un de nos poumons économiques qui est souvent effacé par la mondialisation. Mais quand on écoute les touristes, on nous envie souvent cet aspect-là de nos territoires. Deux personnes vont représenter ce collectif, donc Natalia et Noëlla. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Pour vous présenter rapidement, donc Noëlla, tu es habitante de Saint-Romain et usagère de la nature.
Exactement.
Ok, et Natalia, donc, qui est habitante de Pierrefiche, de métier artiste.
Ouais.
Nous allons parler aujourd'hui des futures carrières de Razac, car il y a un gros projet de carrière qui se met en place sur la commune de Razac. Alors, mesdames, vous pouvez nous présenter rapidement en deux, trois mots votre collectif. Qui sont ces gens qui se dressent contre un si beau projet de remodelage de l'environnement ?
Alors, d'abord, on va faire peut-être la distinction entre le collectif et puis l'association qui est en train d'être créée. On attend sous peu la publication au journal officiel et qui donc est l'association Sauvegardons Razac et le bassin de la Caule. Et puis, effectivement, autour, il y a un collectif plus informel qui n'a pas encore de nom, qui est fait de présence pour l'instant, qui se mobilise de manière diverse. Et voilà, ce collectif a des actions différentes de celles de l'association, mais qui sont connectées par notre opposition à ce projet, donc, qui est sur la commune de Thiviers, dans le lieu dit Razac. Et c'est un projet de carrière d'extraction de quartz de la multinationale Imerys, qui exploite déjà un site depuis plusieurs dizaines d'années à Saint-Jean-de-Caule, où donc se situe leur site mère, le site de Boudot. Et à partir de là, ils s'étendent et ouvrent des sites d'extraction où ils se procurent les galets de quartz qui sont ensuite acheminés vers Saint-Jean-de-Caule pour la suite du processus.
D'accord. Et dans les personnes de votre collectif ou de l'association, qui sont les personnes qui constituent et le collectif et l'association ? Est-ce qu'il n'y a que des habitants ? Est-ce qu'il y a des gens extérieurs ? Est-ce qu'il y a des professionnels ? Est-ce que, voilà, qui sont les gens ?
Jusqu'à présent, donc c'est tout nouveau. On est né, et le collectif et l'association, en juillet, en plein milieu de l'enquête publique qui concerne ce projet. Donc on est, disons, en formation. On est au balbutiement de notre existence. Et on est encore dans la phase de compréhension, justement, de qui on est, de qui fait partie de ce collectif, qui fait partie de l'association, quelles sont nos positions, quels sont nos moyens d'action. Mais en tout cas, pour l'instant, on est majoritairement des habitants, on peut dire, du bassin de la Caule, c'est-à-dire pas seulement des habitants voisins-voisines de Razac, qui est le site directement impacté, mais aussi des habitants de la commune de Thiviers, qui peuvent être éloignés de quelques kilomètres de ce site, et des habitants de plus loin, de Saint-Saud, de Saint-Martin, de Nontron, de Saint-Paul-la-Roche, des gens qui s'intéressent à la préservation des forêts sur notre territoire de manière plus générale.
Ouais, il n'y a pas que des gens de Razac ou des proches de la commune de Thiviers. Il peut y avoir des gens d'un peu plus loin.
Et alors le collectif, il comprend aussi une autre association qui s'appelle Sauvegardons l'Anzour et la Vallée de la Caule, pardon. et qui est la première structure qui a été créée en fait face à l'expansion d'Imerys, puisque Imerys avait manifesté la volonté d'expandre leur site du côté de l'Emzour. Il n'y a pas eu encore d'enquête publique de leur côté, donc ils se sont créés avant nous qui sommes là pour sauvegarder Razak. Et pour l'instant, ça n'a pas été acté de leur côté, mais ils sont un grand soutien et une part importante de notre collectif.
D'accord. Dans cette expansion-là, qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous avez créé le collectif ?
Il y avait des rumeurs qui couraient, des conversations sur le marché, mais tout avec une certaine ambiguïté, puisqu'on ne savait pas trop si c'était l'extension des carrières de Thivier ou l'extension d'une autre carrière, à savoir que le site de Razak, en fait, la propriété foncière, appartient à la société immobilière des carrières de Thivier, qui cède, en fait, on ne sait de quelle manière, par une convention ou j'en sais rien, ce terrain à Imerys. D'où un peu l'ambiguïté dans...
Et il la cède depuis quand, en fait ?
C'est là qu'en fait, on n'est pas vraiment informé. C'est que quand on regarde le plan cadastral, on voit que c'est la société Pierre Charron qui exploite les carrières de Thivier, qui détient les terres qui vont être exploitées par Imerys. D'accord. Donc ça, c'est des...
Vous ne savez pas si c'est une location, si c'est une donation ?
On n'a aucune idée de comment ça se joue. Quelque part, c'est... c'est des bois qui sont assez immenses, qui sont assez préservés, qui, à mon sens, devraient faire partie du bien commun, et du coup, qui là sont possédés par une société privée qui a son siège à Paris et qui vont être exploités par une autre société privée.
Et depuis quand ce territoire il appartient à la société de Pierre Charron ?
On sait qu'en fait, c'est la colline entière, la colline de Razak, qui appartenait donc aux descendants du châtelain de Razak. Et ça a été vendu il y a, il y a une quinzaine d'années. Enfin, moi, je me souviens encore, mon grand-père disait « Ah, voilà, les bois de Razak sont en vente ». Et c'est à ce moment-là que...
À la société de Thivier, des carrières de Thivier.
Oui, c'est à ce moment-là que la société Pierre Charron, qui semblerait être la société immobilière des carrières de Thivier, a acquis les territoires. Et dans le PLU actuel, la zone agricole qui est concernée, elle est considérée comme zone pour une extension des carrières de Thivier. Et dans la modification qu'ils veulent faire, la modification du PLU, ils demandent un changement et du coup, ce serait zone d'extension ou d'exploitation du sous-sol par Imerys.
Sans que ça vous engage, vous, est-ce que moi, je peux me prêter à penser qu'ils ont du lien, Imerys et cette société-là, depuis très longtemps ?
Tu peux te prêter à penser.
Ouais.
On sait juste que les carrières de Thivier ne sont pas du tout, comme pourrait le laisser penser le nom, une petite entreprise locale, les carrières de Thivier. Mais les carrières de Thivier font partie du groupe Basalt, qui est un des plus gros carriers français. D'accord. Et il y a des carrières de Thivier partout en Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, donc ils font... C'est une grosse entreprise.
En préparant l'émission, vous m'aviez parlé d'une personne en fait qui suivait d'ailleurs Imerys, qui vous a expliqué qu'il y avait une histoire de filon qui allait jusqu'à un petit peu plus dans le sud du département.
Alors, il y a un gisement, en fait, qui...
Et c'est du quartz, parce que
oui, voilà,
Razak, c'est du quartz, alors que Thivier, c'est...
C'est du grès.
C'est du grès. Mm. Mais là, Razak, c'est pour le quartz.
C'est des galets de quartz.
C'est comme Saint-Jean-de-Caule, il y a du quartz à Saint-Jean-de-Caule.
Oui. Voilà.
D'accord.
Alors, de ce qu'on a pu voir plans, sur géoportail...
Géoportail, oui, oui.
Ça serait un gisement en fait qui va de Saint-Paul-la-Roche au nord-est jusque vers la Chapelle Fauchée, Ligueux peut-être à peu près par là-bas.
D'accord.
Peut-être je m'avance un petit peu, peut-être que c'est que Vosnac, mais c'est dans ces eaux-là. Et dans la largeur, c'est de Thivier jusque vers Villars, Miac de Nontant. Donc ça fait quand même une zone assez étendue. C'est discontinu, les communes qui bordent ne sont pas complètement prises dans le gisement. Après, les questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse, c'est de savoir quel est le projet d'exploitation de la société Imerys, quel est le projet pour les communes, là où les communautés de communes qui peuvent être impactées.
Mais il y a une question tout de suite qui me vient là, quand tu parles de tous ces, ouais, de tous ces villages là. Bah, c'est est-ce que ou la société Pierre Charron ou Imerys, est-ce qu'ils auraient déjà acheté des terrains sur ces communes-là? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que...
Non, on n'est pas au courant.
Alors par contre, moi je suis au courant d'une chose, c'est la manière dont Imerys a une crédibilité auprès de ses actionnaires, c'est qu'ils ont cette politique de réserver les terres 20 ans à l'avance. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai trouvé dans des vidéos, une vidéo qui disait entre autres « Faut-il acheter l'action Imerys ?» où elle nous explique bien ça en détail. On trouve ça aussi sur le site d'Imerys où ils expliquent qu'ils réservent les terres 20 ans à l'avance pour pouvoir être fiables sur les exploitations qu'ils vont en faire et pouvoir acquérir de la confiance auprès de leurs actionnaires. D'accord. Donc ça veut dire que c'est des politiques qui sont pensées depuis longtemps et la population n'a pas du tout été
consultée ou concertée,
informée, ouais, et encore moins consultée sur le...
Ouais, nous, ce qui a mis un peu l'étincelle quand on s'est rendu compte, du coup, en trouvant sur Internet l'annonce de l'enquête publique qui allait commencer le 24 juin, et là on était mi-juin, et en commençant à en parler autour de nous, entre voisins, voisines, on s'est rendu compte que personne ou très peu des personnes qui allaient être directement impactées n'étaient au courant du fait qu'il y avait une enquête publique, mais parfois même du fait qu'il y avait un projet de carrière, donc parfois à 500 mètres de chez eux. Et c'est ce qui a un peu donné l'envie de se rassembler en tant qu'habitant de cette commune, et d'échanger des informations entre nous et de nous donner les moyens de participer le plus massivement possible à cette enquête publique, c'est-à-dire de participer au débat démocratique ou en tout cas à la possibilité de concertation qui nous était offerte et publicité au minimum légal selon nous. Et c'est comme ça qu'on a fait une première réunion où, avec nos moyens très maigres et en dernière minute d'appel, il y a quand même eu environ 80 personnes qui sont venues à cette première réunion.
Ah oui, c'est assez important.
Ouais. Ouais, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens. Et ça a été une réunion qui a duré 3 heures et qui a été dans une ambiance d'écoute et de bienveillance vraiment... voilà, donc ça nous a donné l'élan de faire d'autres actions. On a vraiment réussi à obtenir une participation quand même assez forte à cette enquête publique. Il y a eu environ 150 avis, dont 130 qui étaient défavorables au projet. Malgré cela, la commissaire enquêtrice a rendu son avis favorable au projet, avec une réserve sur la route, ce à quoi on s'attendait.
Oui, je voulais préciser aussi, donc son avis est favorable, mais il y a quand même cette réserve en effet sur la route. Elle a quand même mis en avant le souci de la population et elle a préconisé aussi d'ouvrir un dialogue avec la population à la fin de son avis.
D'accord.
RLP.
On va se faire une petite pause musicale avec un morceau qui s'appelle Disconnexion du groupe La Femme.
Par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.
De retour sur RLP avec deux invités d'un collectif citoyen, citoyenne, Sauvegardons Razac et le bassin de la Caule. Donc on était rentré un petit peu sur le rapport qui avait été fait entre juin et juillet et qui avait donné un avis favorable donc, pour la société Imerys pour qu'elle puisse exploiter les carrières de. Enfin, commencer à créer les carrières de Razac. Et tu nous disais, du coup, Natalia, que...
Non, je disais qu'en fait, l'enquête unique portait sur deux décisions. Donc, il va y avoir deux arrêtés préfectoraux. Et la première, c'est le projet doit être déclaré d'intérêt général pour modifier le PLU. Et Imerys a besoin que le PLU soit modifié pour pouvoir commencer son projet. Parce qu'actuellement, la moitié des 45 hectares qui sont projetés pour l'exploitation sont des bois, les bois de Razac, qui sont... 21 hectares de bois qui sont classés en zone naturelle à protéger. C'est gênant, mais pas tellement, puisque les dérogations et en tout cas la facilitation des obstacles, disons, de la préservation de l'environnement sont de plus en plus allégées, on se rend compte, pour ce genre d'industrie extractiviste.
D'accord. Et qui serait facilitant là ?
Là, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, il y a une... par exemple, il y a la loi de l'industrie verte qui est passée en 2023. Il y a une série de choses qui simplifie en fait l'installation d'industries qui sont classées comme d'intérêt général ou d'intérêt national.
Alors là, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi qui est d'intérêt public ? Dans le rapport, là, comment ils expliquent que c'est d'intérêt public ?
Alors peut-être, je vais continuer un petit peu déjà sur ce qui se joue. En ce moment, il y a un plan France Relance qui était l'info chaude au moment de l'enquête publique, qui est en fait de relancer les exploitations minières et de carrières en France et en Europe. Et donc France Relance, en Europe, on a Horizon Europe, et toute cette facilitation pour l'accès aux minerais, c'est quelque chose qui est vraiment mondial. Ma petite sœur, par exemple, habite en Nouvelle-Zélande et ils ont, pareil, un outil de facilitation contre lesquels ils sont en lutte là-bas. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place partout en ce moment.
D'accord.
De ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'au nom de la transition énergétique et au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et au nom de l'autonomie de l'Europe en minerais vis-à-vis de la Chine et de la Russie, tout est en train de devenir possible pour les sociétés extractivistes. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on a prévu d'extraire en une génération, donc dans les prochaines 30 années, autant qu'on a extrait depuis le début de l'humanité.
Ah oui, c'est d'où ? C'est sur un rapport ? C'est écrit quelque part ?
Ça, c'est l'enquête de Célia Isoar sur les métaux à l'ère de la transition, qui s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle ». Cette enquête dévoile les enjeux des différentes filières et les enjeux de cette transition énergétique et comment elle facilite l'acceptabilité en fait, de toute une série de nouvelles carrières en Europe et dans le monde.
Mais que, si je comprends bien, du coup, l'intérêt public serait quelque chose d'économique. Ce serait pour avoir le moyen, dans la mondialisation, avoir le moyen d'avoir du quartz, avoir le moyen d'avoir des minerais.
Ouais.
Mais il est vrai que, combien tu disais d'emplois ?
35.
Bon, je crois qu'elles ont...
Sur 15 000 personnes de la communauté de communes, ça pèse pas lourd quand même.
Oui, et puis on met pas en balance en fait ce qu'on perd au niveau de la biodiversité, au niveau du paysage, au niveau de l'empreinte écologique de ces carrières. Et ce qui est assez mesquin, je trouve, c'est que quand on nous présente ce site d'extraction où il ne va pas y avoir d'eau, où il va y avoir juste deux machines, où ils vont creuser que sur 5 ou 10 mètres, mais bon, 10 mètres, ça fait un immeuble, où ils vont soi-disant remettre en état, mais ça paraît impossible de pouvoir remettre en état un sol qui a été creusé à 10 mètres de profondeur.
Et pourquoi tu ne les crois pas s'ils te disent qu'ils vont le remettre en état ?
J'essaie de les croire, mais j'y arrive pas.
Par exemple, quand on a un peu des notions de la qualité des sols, le quartz, c'est quand même un minéral qui est assez important, qui a des propriétés piézoélectriques qui permettent de faire remonter l'eau dans le sol, qui permet les échanges minéraux, en fait. Et donc, par exemple, si on plante des légumes sur un site où il y a des cailloux, entre autres du quartz, ben, ça permet qu'ils vont être plus riches en minéraux. Mais... Et on voit aussi que les arbres qui sont replantés sur les sites qui ont été exploités, ben, ça ne pousse pas très bien. Et ils finissent par mettre des panneaux solaires parce que ça marche mieux.
Ouais.
Mais alors, je veux bien, les arbres, ça fait de la photosynthèse. Et les panneaux solaires pourraient être la version humaine de l'arbre, mais je ne crois pas que ça fonctionne aussi bien.
La version humaine de l'arbre. Mais du coup, vous, qu'est-ce qui vous dérange, en fait? Parce que ça pourrait créer des emplois, ça pourrait aider le pays, effectivement, avoir des minerais. Dans la mondialisation, ça peut s'entendre d'avoir ce type de minerais. C'est quoi qui est dérangeant pour vous?
Ben, ce qui est dérangeant, c'est le projet de territoire. C'est de questionner comment on habite nos territoires. Ben, en fait, on peut pas aujourd'hui nier la catastrophe qui est en cours. Quoi. On peut pas aujourd'hui nier qu'on a besoin de forêts. On peut pas aujourd'hui nier qu'on a besoin de préserver l'eau. On peut pas aujourd'hui nier que que toute l'industrie extractiviste est une des plus polluantes. On peut pas aujourd'hui nier ces choses-là. Et donc on trouve complètement décalé en fait de prendre des décisions par rapport à l'avenir d'un territoire qui a la chance d'être encore assez épargné et de prendre ces décisions. On se dit, ben, qui décide de l'avenir de nos enfants? Enfin, qui décide de l'air qu'on va respirer sur ce territoire? Qui décide de la qualité de la qualité de vie qu'on va avoir au niveau, oui, des nuisances aussi sonores, visuelles, mais dans un projet plus global? Est-ce que c'est les habitants du territoire qui décident de l'avenir de leur territoire, ou est-ce que c'est des actionnaires de multinationales qui sont dans un système hors sol, qui ne sont pas du tout connectés à ce qui se passe là où habitent les gens au jour le jour, qui influencent l'avenir de nos habitats?
Le projet alternatif à un projet d'exploitation, ça serait un projet de comprendre comment on fonctionne avec nos écosystèmes, à quoi sert réellement ce quartz.
Moi, ça m'apparaît, hein, je me trompe peut-être,
comme
quelque chose de dogmatique entre une multinationale qui sert des intérêts d'un pays et les citoyens et citoyennes que vous êtes, le groupe que vous êtes, qui est plutôt sur une protection du territoire. Et du coup, c'est deux idées quand même qui s'opposent régulièrement, pas que chez nous, mais qui s'opposent régulièrement un petit peu partout.
Je peux lire une citation de Peter Berg, qui est un peu un des parrains du biorégionalisme. Donc il dit « La question n'est pas de savoir combien de temps vous allez rester là où vous êtes ou si vous vous apprêtez à en partir. Tout au long de votre vie, ce sera la même histoire. Le lieu dans lequel vous vivez est vivant et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à ce sujet? Quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre l'appareil ?» C'est ce lieu qui vous accueille et vous nourrit. Or aujourd'hui, on habite de moins en moins, ou la terre nous nourrit de moins en moins, ou en tout cas, on a de moins en moins l'impression que c'est la terre qui nous nourrit. Et ce lien-là, en fait, il vient d'un certain déracinement, en fait, qui s'opère de plus en plus depuis, voilà, de toutes ces dernières années. Et ce déracinement ouvre la porte, en fait, à toute une série de pratiques qui viennent d'une pensée hors sol. Cette pensée qu'en fait, peut-être la planète sur laquelle on vit, on n'en a plus trop besoin parce qu'en fait, on fantasme d'aller habiter, je sais pas, sur la Lune. Et du coup, cette pensée hors sol, elle est complètement contradictoire avec une autre pensée qui est celle de l'enracinement, du besoin, en fait, de nous enraciner comme des arbres, justement. Et cette pensée hors sol, elle permet de déraciner des arbres par milliers parce que c'est une pensée de celui qui est déraciné, c'est une pensée hors sol. Et nous, j'ai l'impression, en tout cas, je parle là personnellement en mon nom, mais je sens et je sais qu'on a besoin que nous avons besoin de nous enraciner pour pouvoir faire face justement aux défis qui s'en viennent. Et voilà, et on a envie aussi de sensibiliser les gens à ces questions-là pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
Ok. On va refaire une autre petite pause musicale avec un morceau de Gilles Servat qui s'appelle Madame la Colline.
RLP.
Vous êtes jaune et desséchée, pourquoi Madame la Colline? Vous êtes jaune et desséchée, pourquoi Madame la Colline? Mes racines ont l'arraché, je n'ai plus d'eau dans la poitrine. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies d'herbe tessinelle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le seau sur le fond du puits. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Aujourd'hui sur la roche nue, des troupeaux vont dans la poussière. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies d'herbe tessinelle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le seau sur le fond du puits. Dans la chevelure de mes qui poussait sur ma tête ronde. Dans la chevelure de mes qui poussait sur ma tête ronde. Le froid et le vent se brisaient, j'avais chaud avant qu'on me tonde. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies d'herbe tessinelle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le seau sur le fond du puits. Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. À la place de toutes ces richesses, on déroule du fil de fer. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies d'herbe tessinelle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le seau sur le fond du puits. Rossignol du bois joli, si tu nous quittes pour toujours. Rossignol du bois joli, si tu nous quittes pour toujours. Qui chantera pendant la nuit nos doux messages à nos amours. Et on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies.
RLP.
De retour dans La Bonne Question avec nos deux invités, Natalia et Noëlla, qui font partie du collectif Sauvegardons Razac et le Bassin de la Colle. Donc ce collectif a vocation, enfin, dans un premier temps, à contester le rapport qui s'est mis en place, qui a été fait de juin à juillet sur le site de Razac. Dans un deuxième temps, vous voulez informer une partie de la population parce que ça a été fait un peu en catimini. Une grande partie de la population n'est pas au courant de ce qui va se passer sur ce site.
On n'était pas au courant.
En effet, même maintenant, on rencontre encore des gens qui nous disent « Ah ben non, on ne savait pas ».
Comme le pose Sud-Ouest, alors ce n'est pas des concurrents à nous, on n'a pas de concurrents, nous. Mais ils disent en gros qu'il y a une fronde qui s'est mise en place face à ce projet. Déjà, vous, est-ce que c'est une fronde, dans un premier temps?
Oui, peut-être parler déjà de la manière dont est organisé notre collectif. C'est quelque chose d'assez organique où on est chacun des individualités singulières avec des histoires singulières et un rapport à cette problématique qui nous appartient. Donc je pourrais parler comme mon propre nom. Déjà, je ne me sens pas en lutte contre quelque chose. Je me sens de prendre un espace qui va permettre de donner de la valeur à ma réalité, ma vision du territoire et aussi ma manière de l'habiter. Et l'idée de fronde, moi j'aime bien me réapproprier les mots qu'on me donne. Et fronde, ça me fait penser fondraison. d'être en rapport avec la forêt, ça me va très bien, personnellement. C'est plus ce genre de débat que j'aimerais ouvrir, plutôt
oui, toi,
que d'être...
C'est pas un combat, en fait,
non,
contre
c'est
quelqu'un,
un combat,
c'est plutôt une préservation.
Même plus qu'une préservation, c'est... Moi, je vais même pas être contre, parce que, par exemple, en ce moment, je me passionne pour Elon Musk et sa vision du monde. J'ai été geek, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai étudié la biologie aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de richesses à tirer de tous les points de vue. Ce que je questionne énormément, par contre, c'est quand Elon Musk dit vouloir aller sur Mars, pourquoi pas ? Il faudrait trouver les moyens de le faire en n'ayant pas trop d'impact sur la destruction de notre planète.
Oui, il peut y aller sans moi, en me laissant
sinon,
tranquille.
Le truc, c'est qu'on ne saura même pas comment terraformer Mars si on n'a pas compris comment fonctionnait notre planète.
Il va y aller sans toi, hein. C'est juste qu'il va détruire la planète sur laquelle tu vis pour y aller tout seul. C'est ça
le
problème.
Oui, il me fera peut-être mourir entre-temps en plus.
Ou pas, peut-être qu'on arrivera à ouvrir un débat avec Elon Musk, ça serait un de mes objectifs.
C'est intéressant, tu vois, tout à l'heure, quand Natalia, elle parlait du hors-sol, c'est à lui que je pensais, en fait. Les personnages qui sont hors-sol, qui sont loin de l'enracinement, qui sont déracinés et qui n'ont pas de recherche d'enracinement, forcément.
Bah, de fait, Elon Musk est déraciné puisqu'il est sud-africain. Il s'est senti très éjecté de son pays. Il a trouvé une terre d'accueil aux États-Unis.
Fronde, ou moi je dirais plutôt, enfin en tout cas je me sens plutôt comme questionneur ou lanceur d'alerte ou mes questions, moi j'ai beaucoup de questions et j'aimerais bien justement savoir effectivement ce que pense par exemple la majorité des habitants de Thiviers, ce que penserait la majorité des habitants de Thiviers auxquels on n'a pas eu encore accès parce que pour l'instant on est dans nos réseaux et plutôt dans des personnes convaincues qui se sont manifestées de manière spontanée assez facilement. On n'a pas encore eu le temps de faire une vraie campagne d'information à large spectre. Parce qu'on, voilà. Ouais, je pense que la majeure partie des gens, par exemple, quand on a fait du boîte aux lettres, enfin du porte-à-porte, etc., ils sont outrés quand même de par exemple, devoir mettre des mois à demander un permis d'urbanisme ou de je sais pas quoi pour mettre une serre à l'arrière de leur jardin, et que là, une grosse entreprise qui vient de je sais pas où, en un claquement de doigts, puisse transformer toute une zone naturelle à protéger. Enfin, il y a plein de petits mécontentements qui sont tus, en fait, parce que les gens, j'ai l'impression, dans un territoire, dans une petite communauté, ils sont tous liés par des intérêts. La sœur travaille là, le père est là, la mère a été nourrie par ceci, lui-même, sa femme. Et donc, en fait, il y a énormément d'avis qui sont tus. En fait, il y a énormément de personnes qui se sentent muselées, je pense, et je serais curieuse, je ne sais pas si on arrivera, mais d'arriver à savoir vraiment ce que pensent les gens, ce que penseraient les gens s'ils avaient accès à la totalité de cette information. S'ils savaient que, Alexandre Daza, je sais pas, le PDG d'Imeris, il gagne 4 200 000 euros par an, et que les galets qui vont être extraits dans notre sous-sol vont finalement atterrir sûrement dans une plateforme d'affinage en Chine pour aller être transformés effectivement en panneaux photovoltaïques, entre autres. Mais en fait, le quartz et le silicium, il sert aussi aux alliages d'aluminium pour l'aéronautique, il sert aussi à l'armement, il sert aussi énormément au développement de l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs. On parle énormément de la consommation immense que vont demander les data centers de plus en plus énergivores et de plus en plus énormes. Et dans ces data centers, on apprend qu'en fait, un tiers, c'est de la publicité, l'autre tiers, c'est de la pornographie. On se dit, du coup, est-ce que de creuser des trous partout et de polluer...
Pour stocker de la pornographie.
Non, mais oui, mais c'est ça.
Est-ce que c'est légitime?
Est-ce que c'est ça notre projet d'avenir, en fait? Est-ce que c'est ça qui est d'intérêt général? Si on demande vraiment aux gens, est-ce qu'ils diraient oui? Est-ce qu'ils voteraient oui pour ce changement de paix? Donc, effectivement, là, ça paraît un peu... Tout d'un coup, on dézoome de notre petite histoire locale, mais parce qu'on se rend compte, en mettant le pied dans cette petite histoire locale, que dans l'histoire locale se joue l'histoire globale.
Ouais.
Et qu'en fait, aujourd'hui, peut-être c'était pas comme ça il y a quelques années, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de momentum, là, où quand même, on arrive... Enfin, les limites planétaires sont en train d'être explosées.
Nous, parce que Imeris, ça fait déjà 15 ans, via ces sociétés Pierre Charron, etc., la population, eux, ils ont l'impression qu'il y a une autorisation qui est plus rapide pour ces grands groupes. Et en réalité, moi, quand je vous écoute, non, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sûrement les politiques du territoire, que Imeris les travaille au corps. Je trouve que c'est hyper intéressant Vous n'êtes pas du tout dans une stratégie guerrière de la situation.
En fait, même en soi, après, c'est encore une fois, les prises de parole sont délicates parce que je ne sais pas trop parler au nom de l'association qui n'existe pas encore tout à fait, au nom du collectif n'est pas encore formalisé, au nom de moi-même qui suis un peu détroit et plein d'autres choses. Mais en tout cas.
Vous n'avez pas 15 ans de préparation pour vous construire, là.
Après, on a 15 ans d'autres choses.
Ouais.
Oui. Et on a 15 ans. Pardon.
Ouais, je pense que c'est aussi connecter les différents points qui ont fait nos histoires et qui fait qu'on va chacun avoir une vision singulière de ce qui se passe maintenant. Mais,
Est-ce que vous avez rencontré des élus alors ?
Oui, alors non.
Pas encore.
Pas encore.
La maire dans le hall de la mairie.
La maire
on
de
a
qui
rencontré la.
La maire de.
La maire de Thiviers.
La maire de Thiviers, Madame Yvoz, qui et a essayé d'organiser un rendez-vous avec le représentant d'Imerys et les élus de la Comcom à notre demande. C'est ce qu'on avait revendiqué au moment de l'enquête publique. Une réunion avec le représentant d'Imerys, les élus de la Comcom et les habitants des sites passés, présents et futurs.
Elle s'est faite, cette réunion ?
Et alors, cette réunion a été... Donc, elle a pris l'initiative de nous proposer une date, effectivement. Mais nous avions un peu changé un peu changé d'avis, parce que, entre-temps, on avance, on se rencontre, on réfléchit ensemble, on se documente, on sent aussi quels sont les pas à faire dans cette histoire pour arriver à communiquer au mieux notre message. Et donc là, nous, il nous est apparu que dans un premier temps, c'était essentiel d'avoir d'abord une rencontre avec uniquement les élus de la Comcom et que pour l'instant, on ne saurait pas vraiment quoi dire ou quel dialogue entamer avec le représentant d'Imerys. Il nous semblait d'abord essentiel de se retrouver entre habitants du territoire, entre personnes qui se projettent à long terme sur l'avenir de ce territoire et qui ont a priori les mêmes et qui y vivent et qui ont a priori les mêmes préoccupations d'avenir, plutôt que de mélanger ça avec le représentant d'Imerys qui a d'autres intérêts en fait.
Vous les avez sentis dans le soutien de votre idée ou...
Non, et du coup ce rendez-vous ne s'est pas fait parce que
D'accord.
Du coup...
Et même avec les élus, vous n'avez pas encore rencontré...
Non, du
les
coup
élus.
La maire a préféré annuler vu qu'on ne voulait pas
Imerys, elle ne voulait pas discuter avec vous.
Elle nous a conseillé dans ce cas de nous rapprocher du président de la Comcom pour organiser un rendez-vous avec lui, ce qu'on va faire.
Voilà. D'accord. Mais elle, vous avez discuté en parlant du projet, vous avez senti qu'elle était dans le soutien, qu'elle comprenait ce dont vous parliez, qu'elle était adhérente ou pas du tout ou...
Bon, je pense que elle est dans une position où elle essaie de ménager les deux parties et elle était. Elle nous soutenait dans notre besoin de dialogue. Et d'ailleurs, donc, elle a facilité ce rendez-vous qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'on a changé d'avis. Mais après, je ne saurais pas trop dire sa position. J'ai l'impression qu'on verra au fur et à mesure. J'ai l'impression que pour l'instant, elle ménage les deux parties. Elle essaye de ne pas trop prendre parti, même si elle a voté. Elle a voté comme tous les élus de la Comcom. Elle a voté pour ce projet. Donc, elle a donné sa voix.
Et notre ambition, ça serait peut-être petit à petit de donner à voir d'autres projets possibles qui pourraient être contents de soutenir.
Ouais.
Ça, c'est un rêve à plus long terme.
En tout cas, ce sera intéressant de vous re-recevoir après cette rencontre et puis après peut-être le travail que vous allez faire auprès du reste du groupe.
Mm-hmm.
Peut-être qu'on pourra se revoir dans un autre moment.
C'est déjà fini là ?
Non, pas du tout. On est encore sur une pause. On va repartir pour une pause musicale pour un dernier morceau qui s'appelle On va s'en sortir de Hélène Piris. C'est vous qui avez choisi, donc c'est ça, c'est Hélène Piris.
Radio Libre Allez. En Périgord.
Non, mais on va s'en sortir. Un jour. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller. Ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les Bayer, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la PAC de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coke aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelines, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse aux sorcières, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se connaît pour des petits Africains de 7 ans. Au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone à 1000 boules. Putain, et on va s'en sortir. On va consommer que l'énergie dont on aura besoin et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des abris pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins des rues, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. S'en sortir. Oui, moi aussi, j'avoue, j'ai un petit peu des doutes parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité. Allez, viens, on se bouge le cul.
Ok, de retour dans la bonne question sur RLP. Oui, il faut qu'on dise plusieurs fois RLP. J'ai appris, c'est tous les combien, Émilie, qu'il faut le dire, RLP. Il n'y a pas de...
RLP.
Donc RLP, RLP, RLP. Comme ça, je l'ai RLP. Dit pour toute l'émission. De retour avec nos deux invités, donc Natalia et Noëlla. Moi, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez dans votre collectif, parce que vous en avez parlé un petit peu au départ, mais est-ce qu'il y a des commissions de recherche? Comment sont prises les décisions?
En tout cas, dans l'association, on a essayé, par exemple, dans les statuts, de trouver une façon d'être le plus collégial possible, collégial, je dirais, ou... Ouais. Et puis, on a en gros un groupe de coordination qui se réunit, qui est un peu l'équivalent du conseil d'administration et qui...
Est-ce que vous avez des groupes de recherche?
Oui, il y a des choses qui commencent à se dessiner. Un groupe qui travaille sur la communication, un groupe qui va travailler sur l'organisation d'un événement qui va peut-être avoir eu lieu à la fin du mois d'octobre.
Oui, ça se construit quand même, vous avancez.
Et un groupe qui est plutôt les porte-paroles et qui du coup s'occupe plutôt d'imaginer comment justement communiquer avec les élus, etc. Donc voilà, ça se met en place peu à peu.
Oui. Vous êtes en 2 mois, vous avez quand même construit assez rapidement au moins ce que vous allez présenter.
Oui, et puis aussi une recherche de ce qui se fait ailleurs.
Ah oui, c'est intéressant. intéressant ça d'approfondir, parce que vous m'aviez dit en préparant l'émission que vous étiez mis en lien avec un autre groupe qui est dans
avec
le
plusieurs autres groupes
dans le Lot ou qui
on
est
a, alors on est parti en émissaire à un festival qui a eu lieu dans le Cantal, un site qui est menacé par Imerys depuis longtemps, mais eux sont très habitent vraiment leur territoire. Donc là, ils ont fait un festival sur le site qui contient des diatomées, qui sont des organismes marins, des organismes marins dont la coque est aussi en silice, donc le même matériau que le quartz, le silicium.
Ils extraient de la terre de diatomée.
La terre de diatomée, en fait, qui sert à plein de filtres dans plein de domaines différents. De la bière au domaine médical.
Et bref, du coup, eux ils s'appellent le collectif pour la Nars de Nouvial, et donc on les a rencontrés. Et puis on est aussi en lien effectivement avec une association qui lutte contre Imerys Ceramics Quartz, du coup la même entité Imerys qu'en Dordogne, avec le même directeur Philippe Dagier de Rufos. Et donc ça a été assez.
Eux, ils sont en lutte.
Eux, ils sont en lutte. C'était des vergers à graines, en fait, classés par l'UNESCO, qui faisaient partie d'un programme européen, etc., et qui ont été, en fait, détruits pour l'extension d'une carrière Imerys. On est aussi en lien avec des collectifs qui sont en lutte à Glomel en Bretagne.
Oui, vous n'êtes pas isolé en fait.
On apprend que Imerys est présent sur toute la planète et voilà.
Et vous vous formez en fait entre groupes. Comment ça se...
C'est des échanges d'informations et en fait, je pense que chacun essaie de comprendre en fonction de la longévité de son...
Vous allez faire des temps d'information à la population ?
Ouais.
On espère, oui.
Oui, c'est prévu.
D'accord.
Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est une formation, en fait. Enfin, j'ai l'impression, nous, on est élèves, en fait. On est en période d'apprentissage et on ingère une quantité d'informations assez bouleversante aussi par rapport à des choses qu'on a peut-être voulu ne pas voir avant. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me dis, tiens, comment j'ai fait dans ma vie pour, jusqu'à aujourd'hui, ne pas me demander vraiment d'où vient le métal dont est constitué un avion, par exemple. Bon, alors, ça fait un moment que je ne prends plus l'avion, mais... Des questions, en fait, qui nous amènent à nous rendre compte à quel point l'extraction des métaux est le nerf de notre société et du système capitaliste dans lequel on vit. Et je me demande, en fait, ce que ces personnes qui sont dans ce rêve-là ou dans ce fantasme-là, je me demande ce qu'ils diront à leurs petits-enfants.
Et on va se diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Ah ouais. Une petite citation.
Kirkpatrick Sale, L'art d'habiter la Terre. Il dit « Même les économistes, en somme, lorsqu'ils rentrent chez eux après le travail, se confrontent au monde réel, continu, physique. Et à ce moment-là, tard le soir, une fois que leurs analyses économétriques et leurs théories sur le marché du travail sont mises de côté, ils peuvent réfléchir aux limites physiques du monde, à la planète et sa réalité, et se demander... Si l'économie est la science de la distribution et de l'utilisation des ressources de la Terre, lesquelles proviennent toutes sans exception d'une écosphère finie, pourquoi alors cette science n'a rien inventé d'autre que des systèmes qui épuisent la totalité de ses ressources ?
Il pose une petite contradiction.
Ouais. Non, mais il parle des économistes stationnaires et du fait que ce n'est pas, enfin que la croissance en soi, c'est une énergie vitale, c'est une impulsion de vie et c'est pas mauvais, mais c'est juste au profit de qui aussi. Ouais. Si on mettait toute l'énergie qu'on met dans la croissance à réfléchir à la réelle distribution de cette planète, on y arriverait. Je pense. Enfin,
ouais.
En tout cas, il y a plein de solutions. Il y a plein de si les gens comprenaient qu'on peut croître avec moins et qu'on peut croître pas forcément dans la matérialité, dans la possession et dans l'accumulation d'objets en plastique ou d'objets connectés ou d'objets hors sol, mais qu'on peut croître dans la qualité de nos relations, dans la qualité de ce qui nous nourrit, que ce soit de la nourriture, de l'information, de la musique,
des relations. des fêtes.
C'est cette croissance-là, celle qu'on a envie de donner.
Oui, vous avez une idée quand même relativement claire de ce que vous ne voulez pas, en tout cas.
Ouais.
Ça, c'est assez.
Mais de ce qu'on veut aussi.
De ce qu'on veut, ouais.
Ouais.
Et puis après, voilà, effectivement, on disait, c'est cette association, ce collectif qui commence à se dessiner, c'est une multiplicité de profils très divers et variés, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau même des bords politiques, que ce soit au niveau des classes sociales, que ce soit au niveau de leur, leur façon d'habiter.
Vous avez une sociologie de votre groupe ? Vous avez un document
Non.
On n'en est pas encore
non,
là.
Non, on n'en est pas encore.
Peut-être que ça arrivera. Ça de...
bah, c'est très mouvant. Enfin, pour l'instant, c'est très mouvant. Et puis, voilà, on est en...
Même si c'est intrusif, bon, pour les personnes, tout le monde ne voudra peut-être pas répondre, mais ce serait intéressant de voir quel milieu social participe beaucoup et est un... Les âges aussi, ce serait intéressant.
Bah, je pense que oui, peut-être.
Peut-être qu'on pourra faire ça.
Où est-ce qu'on vous contacte, en fait, si on veut participer à votre groupe ? Est-ce que vous avez un site, un blog, je ne sais pas, un mail, un téléphone ?
Alors, on a un mail, c'est sauvegardon-razac@protonmail.com.
D'accord.
Et sur la... Donc, on a parlé de l'association Sauvegardons l'Emzour et la Vallée de la Colle, qui du coup, elle, est opposée à un projet d'extension d'Imeris, pareil au nôtre, mais à l'Emzour. Eux ont un site, c'est sauvegardonslemzour.org, je crois, ou bref, Sauvegardons l'Emzour.
En tapant Sauvegardons l'Emzour.
Et sur leur site, ils ont hébergé une page dédiée au collectif, enfin, à Razac, au collectif de Razac.
D'accord.
Parce qu'on est vraiment deux associations jumelles, enfin, sœurs, et le fait d'exister et de coexister les deux sur un même territoire nous fait énormément de bien. Et il y a énormément de mutualisation d'outils et d'informations et de...
D'accord.
Je nous vois un peu comme deux vigies et de part et d'autre de ce gisement de quartz.
D'accord. On a pour coutume dans l'émission de laisser quelques lectures pour ceux qui seraient intéressés pour approfondir un peu le sujet. Quelles lectures vous pourriez nous proposer ? Je vois Elon Musk sur la table. Là, vous avez ramené plein de
bouquins que
je trouve très bien.
Je ne l'ai pas encore lu complètement. Je suis en phase de l'étudier et je regarde aussi beaucoup de vidéos. C'est intéressant de le voir réagir. Et sinon, oui, ça, c'est une biographie qui a l'air d'être assez fouillée, de quelqu'un qui s'appelle Walter Isaacson, qui a aussi fait des biographies de Steve Jobs et d'autres...
Donc,
personne de ce milieu-là.
Là, il fait une biographie sur Elon Musk.
Ouais, qui s'appelle juste Elon Musk.
Et est-ce que à un moment il dit ah non, tu l'as pas encore lu.
Juste, je l'ai juste survolé pour l'instant.
Il dit à son fils, tu seras un cyborg, mon fils.
Donc moi, j'ai toute une série de livres devant moi. Je peux dire les titres de tous.
Oui, t'as 14 secondes.
Le premier, vraiment en tête de tous les sondages. Non, et que je conseille vraiment à tout le monde, en fait. Je pense que si tout le monde lisait ce livre, il se passerait quelque chose. C'est obligé. Donc, c'est « La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition » de Célia Izoard, chez Ecosen Seuil. Voilà. Ça se lit très facilement, malgré la thématique qui paraît ardue, mais en fait, elle nous concerne tous. Parce qu'on marche tous sur un sous-sol qui est potentiellement exploitable un jour. Et en fait, ça concerne l'humanité entière sur tous les continents et dans toutes les régions. Donc voilà. Ensuite, chez Wild Project, il y a Kirkpatrick Sale, c'est l'auteur, et L'art d'habiter la Terre, la vision biorégionale, qui est un peu le manifeste de... du biorégionalisme, qui est une proposition alternative à la façon dont on habite aujourd'hui le monde de manière globalisée. Et là, c'est biorégionalisé.
À écouter d'ailleurs notre émission sur la permaculture avec notre invité Nicolas,
okay.
Qui nous a parlé
de ça,
biorégionalisme. Ouais.
Ensuite, un autre biorégionaliste, Gary Snyder, qui est aussi poète, anarchiste, bouddhiste, et donc son livre « Le sens des lieux, éthique, esthétique et bassin versant ». Ensuite, un dernier livre plus poétique et sensible qui s'appelle « Rendre le monde indisponible » de Hartmut Rosa.
Très bien.
Et est-ce que je peux finir par une petite citation ?
Moi, j'en avais peut-être deux ou trois aussi à proposer.
Une chacune. Une chacune.
Moi, c'était plus sur des livres aussi. Un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Tresser les herbes sacrées » de Robin Wall Kimmerer. Qui est en fait une nouvelle manière de faire de la recherche scientifique, parce qu'elle est à la fois scientifique, autochtone d'Amérique du Nord, et quelque part artiste, poète. Du coup, le fait de tresser tout ça, c'est vraiment une nouvelle manière d'accéder à la science, à une manière d'appréhender le monde. Et après, dans le même genre, il y a « Prolifération » de Anat Singh, qui met en question justement cette pulsion de vie qui peut prendre une forme de prolifération comme elle le fait avec l'extraction minière.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au revoir et je vais te laisser le dernier mot avec ta citation.
Ok.
Et après, on mettra le jingle, si ça vous va.
Ok, parfait.
Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Je ne savais pas trop où ça allait, parce que j'avais compris que vous n'étiez pas encore bien construit dans le groupe, etc. Personnellement, je trouve le sujet intéressant, mais j'ai trouvé beaucoup plus intéressant votre manière d'aborder le sujet. Je trouve que moi, ça m'intéresse, la construction de groupes sur le territoire, d'acteurs sur le territoire.
Tiens, on t'offre la rue minière.
Ah bah merci, c'est très très gentil. Merci, merci. Et ben voilà, dans la série des gens moins visibles que nos politiques, merci à toutes les deux, Noëlla, merci Natalia, et merci Émilie d'avoir été présente sur l'émission.
Merci.
Je vous souhaite une bonne continuation, en espérant pouvoir inviter le patron d'Imeris.
Oui,
je vais essayer de le faire venir,
ou
au moins un des représentants. Bah, la prochaine fois, je veux bien que à plusieurs, vous veniez à plusieurs collectifs et qu'on voit un peu vers quoi vous êtes allé, comment vous avez évolué, ce que ça donne. Est-ce que ça a tourné en bagarre ? Est-ce que ça continuera à aller sur ce chemin de la raison ? Donc je te laisse la dernière parole avec une citation de...
De Simone Veil, mais je vais en rajouter deux petites autres après. Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont qu'en partie. Qui est déraciné, déracine. Qui est enraciné ne déracine pas. Simone Veil. Depuis des siècles, du nord au sud, des mouvements populaires se battent pour défendre une idée simple. La terre et l'eau appartiennent à toutes, à tous, ou peut-être à personne. Nous n'inventons rien de nouveau. Nous renouons avec une conviction dont jamais nous n'aurions dû nous départir. Le peuple, le feu et l'eau sont des forces indomptables.
Merci à vous, citoyenne.
Moi, je vais finir par un petit mot, une petite proposition de répandre nos récits plutôt que nos cailloux.
Merci à toutes les deux.
RLP.
Et j'espère à une prochaine fois. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. Si vous voulez faire des retours sur le site de RLP, je reçois avec plaisir toutes les critiques et toute la bienveillance qui peut être donnée. Merci à vous, mesdames. Merci de vos actes citoyens. Continuez en force.
Merci.
Au revoir.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre. Perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours ! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme, une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.